La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce nouveau numéro de La Science s'amuse, une émission coproduite par Divergence FM et l'Université de Montpellier qui vous emmène en croisière dans les laboratoires de recherche de l'archipel Muse. Au cours de notre périple, nous vous avons déjà transporté dans les fonds sous-marins, dans les tombeaux égyptiens, au sud pour rencontrer les espèces écologiquement rares ou encore dans l'habitat du futur. Aujourd'hui, accrochez-vous bien à votre siège car nous vous emmenons dans l'espace. Le laboratoire Univers et Particules de Montpellier, le LUPM, en collaboration avec d'autres laboratoires français, vient de mesurer pour la toute première fois la masse et la densité d'une toute jeune exoplanète située dans le système planétaire AU-MIC, donc du nom de son étoile AU Microscopie. Une découverte rendue possible grâce à Spirou, le tout nouveau spectropolarimètre, pas facile, spectropolarimètre vélocimètre de haute précision, récemment installé au télescope Canada-France-Hawaï. Notre invité du jour est spécialiste de la physique stellaire et exoplanétaire au LUPM, justement, donc Julien Morin, bonjour.
Bonjour.
Vous me corrigerez pour tout ce que j'ai certainement pas très bien dit, mais on aura
c'est
le temps.
Parfait.
Donc avec moi pour mener cette interview astrale, la brillante Aline Perriot.
Bonjour.
En seconde partie d'émission, nous passons de l'infiniment grand à l'infiniment petit, de la constellation du microscope à la plateforme de microscopie électronique et analytique, pour découvrir une étrange et imposante machine, le microscope électronique à transmission. Et c'est Erwan Oliviero qui nous fera la visite. La science s'amuse, vous avez la carte, on décolle. 3, 2, 1, vous aurez compris, Bruno Bertrand à la technique aime beaucoup l'espace. Donc c'est un univers fascinant. On va prendre le temps de resituer un petit peu votre étude. Donc vous allez nous parler d'une planète qui s'appelle AU-MIC-B, c'est bien ça ? Donc là, on est digne d'un univers de BD, puisque cette planète, donc, elle se trouve dans la constellation du microscope et elle tourne autour d'une étoile qui s'appelle AU Microscopie. Donc ce système, on dit un système solaire, même si ce n'est pas le Soleil, ou un système planétaire ?
Un système planétaire, oui.
Alors, ce système planétaire, il est situé à quelle distance d'une autre ?
Alors, environ, donc, nous astronomes, on utilise généralement l'unité de parsec, donc on dirait une dizaine de parsecs, ce qui fait, pour une unité qui est peut-être plus connue du grand public, une trentaine d'années-lumière. Donc, comme ça, on se figure peut-être pas bien, ça ferait environ 300 000 milliards de kilomètres. Donc, on voit que c'est pas la porte à côté, a priori, mais à l'échelle de la galaxie, finalement, c'est tout près, hein, parce que la galaxie fait environ 100 000 années-lumière de diamètre.
D'accord, ouais, ça fait relativiser, en effet. Et donc, il est relativement jeune, c'est ça, ce système planétaire ?
Tout à fait. Donc, l'étoile à une microscopie, elle a environ 22 millions d'années. À nouveau, hein, ça peut paraître beaucoup, mais à comparer aux presque 5 milliards d'années de notre Soleil, on voit que c'est une étoile qui est très jeune et qui, au tout début de son existence, qui n'a pas encore atteint ce qu'on appelle en astronomie la séquence principale. Donc elle est encore en train de se contracter pour arriver vers cette séquence principale qui est en fait son état mature.
D'accord, donc si on essaye de comparer un peu à l'échelle de la Terre, cette étoile, elle naît bien après l'extinction des dinosaures, par exemple.
Ah, tout à fait, voilà, elle est vraiment extrêmement récente, oui.
Et cette fameuse étoile, alors, à une microscopie, elle a une masse qui est la moitié de celle du Soleil. C'est ça, il y a une température d'à peine 3500 degrés contre 5500 degrés Celsius pour le Soleil. C'est ce qu'on appelle une naine rouge, c'est ça ?
Voilà, donc ce type d'étoile, effectivement, c'est mon sujet de prédilection. Hein, c'est ce à quoi je m'intéresse principalement, en fait, l'étude de ces étoiles naines rouges, de leur activité magnétique. Donc ce sont des étoiles qui sont plus petites, plus froides, moins massives que le Soleil, et qui représentent en fait la grande majorité des étoiles de notre galaxie. On estime que dans le voisinage solaire, environ 3/4 des étoiles sont des naines rouges.
Et celle-ci, a priori, semble particulièrement active. On a lu qu'elle tournait 5 fois plus vite sur elle-même que ne le fait le Soleil, et que ça la rendait extrêmement active, magnétique, qui avait de fréquentes éruptions monstrueusement énergétiques. Vous avez parlé de vacarme. Qu'est-ce que ça signifie exactement pour une étoile du vacarme ?
Alors, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu une sorte de métaphore. Donc, disons que sur le Soleil, on sait qu'il y a ce qu'on appelle donc de l'activité magnétique. Ça se voit notamment via les taches solaires. Si avec un télescope correctement utilisé, avec un système de filtre adéquat pour ne pas se brûler les yeux, on observe la surface du Soleil, on voit des taches qui sont des régions de champ magnétique qui est très intense. Si on observe avec un autre type d'instrument qu'on appelle un coronographe, qui permet de voir l'atmosphère du Soleil, donc ça c'est le type d'instrument qu'on a à la faculté des sciences, sur le campus pour les étudiants, on peut voir donc des éruptions, on peut voir de la matière qui est éjectée par le Soleil. Ça, c'est ce qu'on voit donc sur notre Soleil. Sur cette étoile qui est beaucoup plus jeune, qui tourne beaucoup plus vite sur elle-même, l'activité magnétique est beaucoup plus intense. Et donc, on voit le même type de phénomène, mais à une échelle beaucoup plus forte. C'est-à-dire que le nombre de taches est beaucoup plus élevé, il couvre une plus grande fraction de la surface de l'étoile, le nombre d'éruptions qu'on observe est beaucoup plus élevé, leur fréquence est plus élevée, leur énergie est plus importante. Donc voilà, donc ça, c'est l'activité magnétique. Maintenant, en termes de bruit, à quoi ça correspond ? Si vous voulez, quand on veut observer, détecter une planète, ce qu'on va essayer, c'est de mesurer la vitesse de l'étoile. En fait, paradoxalement, pour étudier la planète, on n'observe pas, dans la plupart des cas, on ne voit pas la planète, on étudie très précisément l'étoile. Et donc, quand on veut détecter une planète, normalement, on doit mesurer le fait que la vitesse de l'étoile varie de manière sinusoïdale, donc de manière très progressive, au cours du temps. Et quand on a l'activité magnétique de l'étoile, eh bien, ça va rajouter à ce signal très propre qu'on veut mesurer des perturbations. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, comme si vous écoutiez la note d'un instrument avec une chaîne IFI, que vous aviez un oscilloscope. Si vous avez une note pure, vous verriez une belle sinusoïde, une belle courbe en forme de vague très précise. Et puis là, quand vous rajoutez l'activité magnétique, ça va avoir deux effets. Vous allez rajouter d'une part une sorte de vacarme, un petit peu comme si vous écoutiez votre instrument à côté d'une autoroute. Donc vous allez avoir vraiment du bruit, des perturbations, des petites variations dans tous les sens. Et puis en plus, vous allez avoir un signal perturbateur qui peut être que vous allez voir d'autres sinusoïdes, mais qui ne sont pas liés à des planètes, qui sont liés à l'activité de l'étoile.
D'accord. Alors, je reviens un petit peu. Alors, apparemment, c'est une méthode assez connue, mais alors moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, cette planète, elle a été découverte parce que vous avez observé, donc en regardant l'étoile principale, vous avez observé un phénomène d'éclipse. C'est bien ça. Enfin, un changement du signal lumineux qu'elle émettait. C'est comme ça qu'on remarque une planète dans un système planétaire aussi lointain, en fait, en voyant quelque chose passer devant l'étoile.
Donc tout à fait, c'est une des méthodes qui peut être employée. Donc comme je le disais, pour détecter et étudier des exoplanètes, dans la plupart des cas, on ne voit pas la planète. C'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui un peu plus de 4000 exoplanètes. Et en fait, à part pour quelques dizaines d'entre elles, on n'a jamais pu faire d'image où on voit la planète comme un point lumineux.
C'est parce qu'elles sont trop loin qu'on ne peut pas faire d'image ?
Alors il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'elles soient trop loin et aussi le fait qu'elles soient proches de leur étoile. Et en plus, beaucoup moins lumineuse que l'étoile, parce que finalement, l'étoile émet sa propre lumière, alors que la planète, elle, ne fait qu'en réfléchir une toute petite partie. Donc, dans la plupart des cas, en fait, on ne voit pas la planète directement, et on mesure indirectement sa présence en étudiant très précisément l'étoile. Il y a deux méthodes principales qui sont utilisées. L'une, c'est celle que vous décriviez, qu'on appelle méthode des transits, c'est-à-dire qu'on observe une étoile pendant une période de temps très longue, et on mesure extrêmement précisément sa luminosité, son éclat. Et on voit que, périodiquement, son éclat diminue très légèrement, et puis il revient à la normale. Et donc ça, on interprète ça comme étant le fait qu'une planète est en train de passer devant son étoile. Un petit peu comme ce qu'on voit dans le système solaire, quand vous avez Mercure ou Vénus qui passent devant le Soleil, et bien là, on a le même genre de phénomène qui se produit au niveau de l'étoile. Donc ça, c'est une méthode. C'est celle qui a permis au satellite Thèse de la NASA de mettre en évidence le fait qu'il y avait probablement une planète. Et ensuite, il y a la deuxième méthode, qui est celle que je mentionnais, de vélocimétrie. On mesure la vitesse de l'étoile et qui a permis de confirmer l'existence de cette planète et de mesurer plus précisément ses propriétés.
Alors l'étude à laquelle vous avez participé et dont on parle aujourd'hui, elle a permis de mesurer la masse et la densité de cette planète grâce au spectropolarimètre vélocimètre Spirou qui est installé sur le télescope TCFH. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce télescope, où on peut le trouver et puis aussi à quoi il ressemble ?
Alors ce télescope, donc, c'est le télescope Canada-France-Hawaï. Donc comme son nom l'indique, hein, il est opéré en collaboration par le CNRS en France, par le Canada, par l'Université d'Hawaï, et puis en plus avec des collaborations d'autres pays, hein, de Taïwan, du Brésil, etc. Ce télescope, donc, c'est un télescope de 3,60 m de diamètre, ce qui, donc, si on se représente, c'est-à-dire que le miroir principal du télescope mesure 3,60 m de diamètre, donc c'est quelque chose d'assez gigantesque, mais à l'échelle des télescopes d'aujourd'hui, c'est un télescope de classe moyenne, hein, les plus grands télescopes au monde actuellement font une dizaine de mètres de diamètre. Ce télescope, il est situé sur le volcan Mauna Kea, sur l'île d'Hawaï, à un peu plus de 4000 mètres d'altitude, dans un très beau lieu, hein, qui est vraiment sur un sommet d'un volcan, là où on a parmi les plus grands télescopes du monde, et c'est l'un des meilleurs sites au monde, et en tout cas, quasiment le meilleur dans l'hémisphère nord, pour observer les astres.
D'accord, pardon. Donc là, la masse, donc vous avez pu mesurer la masse de cette planète, comme vous venez de lire, donc grâce à la vélocimétrie. Vous en arrivez à la déduction qu'elle fait 17 fois la masse de la Terre, donc c'est une planète géante en fait.
Voilà, donc si on veut repréciser un peu les choses, donc avec la vélocimétrie, hein, l'idée, comme le nom l'indique, c'est qu'on mesure la vitesse de l'étoile. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on s'imagine une planète qui orbite autour d'une étoile, justement on imagine la planète qui orbite autour de l'étoile qui serait fixe. En réalité, les deux corps sont en orbite autour du centre de masse du système, mais comme la planète est beaucoup moins massive que l'étoile, eh bien en fait, la planète décrit une orbite qui est très grande, alors que l'étoile décrit une orbite beaucoup plus petite, avec une vitesse beaucoup plus faible. Donc ce qu'il faut mesurer, hein, c'est des vitesses faibles, là en l'occurrence de quelques mètres, dizaines de mètres par seconde. Donc ce qu'on peut mesurer avec ça, c'est la masse de l'étoile avec la vélocimétrie. Et en réalité, ce qu'on mesure, c'est la masse projetée sur notre ligne de visée, c'est-à-dire que selon que vous voyez le système par la tranche, entre guillemets, ou de dessus, eh bien, vous n'allez pas mesurer la même chose. Vous êtes plus sensible si vous voyez le système par la tranche. L'avantage du système de AUMIC, c'est que comme on voit un transit, on voit une éclipse, c'est-à-dire on voit la planète passer devant son étoile, eh bien, on sait qu'on la voit par la tranche. Donc ce qu'on mesure, c'est non plus la masse projetée, mais la masse vraie de la planète. Donc là, on est capable de mesurer la masse de la planète. Et puis, comme avec donc, la mesure de transit faite par Tess, on avait déjà le rayon, et bien connaissant la masse et le rayon, on en déduit la densité.
Et justement, la densité, elle est de combien ? Est-ce qu'on peut la comparer à des planètes qu'on connaît ? Quelle est-elle ?
Alors la densité donc, qu'on mesure, c'est un peu plus de 1 g par centimètre cube, environ 1,3. C'est-à-dire que c'est plus dense que de l'eau, plus dense que des planètes comme Jupiter ou Saturne dans le système solaire, et à peu près équivalent à ce qu'on connaît pour ce qu'on appelle les géantes de glace hein, dans le système solaire, c'est-à-dire Uranus et Neptune.
Vous la comparez, alors justement, donc cette planète, vous la comparez à Neptune, et vous parlez même d'un Neptune chaud.
Voilà, alors ça, c'est un peu les nomenclatures qu'on a. C'est-à-dire, si on regarde effectivement sa masse, son rayon, elle ressemble à Neptune. Par contre, dans le système solaire, j'allais dire, c'est bien rangé. Les planètes telluriques rocheuses sont proches du Soleil. Les planètes géantes sont un peu plus loin. Ce qu'on appelle les géantes de glace, donc ces géantes un peu plus petites, sont encore plus loin. Quand on a commencé à découvrir d'autres systèmes planétaires, on a vu que ce n'était pas forcément toujours aussi bien rangé et que parfois on avait des planètes géantes proches de leur étoile. Et donc on parle par exemple de Jupiter chaud pour la première exoplanète découverte et ici dans ce cas-là de Neptune chaud, c'est-à-dire une planète analogue à Neptune, mais qui orbite très proche de son étoile, en fait un beaucoup plus proche que Mercure dans le système solaire.
Mmh. Alors, donc là, on l'a dit en introduction, c'est la toute première fois que des scientifiques parviennent, enfin que vous parvenez à mesurer donc, la densité et la masse d'une planète aussi jeune. Et vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, c'est ce bruit justement qui est généré par des systèmes planétaires jeunes qui empêche ces mesures, enfin qui les rendent difficiles.
Exactement, donc c'est les mesures de densité de planètes, on en a déjà un certain nombre pour des planètes plus évoluées autour d'étoiles, comme je disais tout à l'heure, de séquences principales, des étoiles qui sont matures, qui mènent leur vie tranquillement, qui ont fini de se former. Par contre, pour des étoiles encore jeunes, encore en train de se former, là c'est plus délicat parce qu'elles tournent plus vite sur elles-mêmes, elles ont cette activité stellaire, et donc ça rend plus difficile les détections. Donc on a déjà quelques détections d'exoplanètes autour de ces étoiles jeunes, même des étoiles encore plus jeunes que AUMIC. Par exemple, en 2016, avec à peu près la même équipe, on avait, avec le prédécesseur de l'instrument Spirou, découvert un Jupiter chaud en orbite autour d'une étoile très jeune. Mais comme on n'avait pas la mesure de transit, comme l'alignement du système n'était pas bon pour qu'on voit la planète transiter devant son étoile, on n'avait pas le rayon, donc on n'avait pas la densité. Alors que là, l'avantage, c'est comme la planète a été mise en évidence par la méthode des transits, eh bien on avait déjà le rayon, on a rajouté avec Spirou la mesure de la masse, donc on a la densité.
Et le fait de pouvoir observer justement une planète aussi jeune, est-ce que ça vous donne des indications sur la façon dont elles peuvent se former ?
Alors tout à fait, pour nous c'est vraiment ça qui est intéressant. C'était un des grands objectifs scientifiques de Spirou, hein, c'est de mieux comprendre la formation des systèmes planétaires, notamment le rôle justement de ce champ magnétique dans cette formation. L'idée, si vous voulez, c'est que quand l'étoile se forme, donc ça part d'un effondrement d'un nuage de gaz et de poussière, un disque se forme autour de l'étoile et dans ce disque, les planètes se forment. Et puis, donc justement, le fait qu'on ait vu qu'il y a des Jupiter chauds, des Neptune chauds, ça suppose qu'il y a également une migration. Parce qu'en fait, les modèles qu'on a pour la formation des systèmes planétaires, c'est que les planètes gazeuses, comme ça, qui ont une enveloppe de gaz assez importante, sont des planètes géantes, vont se former loin de l'étoile. Et donc, si on veut qu'elles arrivent proches de l'étoile, il faut qu'elles migrent. Et donc, ce que nous donne évidemment comme contrainte ici le système AUMIC-B, c'est bien en 22 millions d'années, le système planétaire a le temps de se former et les planètes ont le temps de migrer déjà proche de l'étoile. Donc ça, c'est une contrainte extrêmement importante pour l'évolution de ces systèmes planétaires.
Et est-ce que ça donne des indications sur la formation de notre système solaire également ?
Alors, sur notre système solaire, en tout cas, ce que ça montre, c'est que les mécanismes qui permettent aux planètes de migrer vont être extrêmement rapides. Et ce qu'il faut comprendre, finalement, dans notre système solaire, c'est d'une part, pourquoi dans d'autres systèmes, les planètes géantes ont migré proche de leur étoile et pourquoi pas dans notre système solaire. Donc ça, c'est quelque chose qui reste encore un peu mystérieux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en essayant de reconstruire, finalement, l'histoire des orbites dans notre système solaire, on voit que même si les planètes géantes sont relativement loin, à quelques unités astronomiques, une dizaine d'unités astronomiques de l'étoile, eh bien, on a des preuves que dans le passé, les planètes ont migré, qu'il y a eu malgré tout des mouvements de Jupiter et Saturne, notamment dans le système solaire, et on voit encore la trace de ça dans les orbites actuelles.
Vous nous avez dit donc que ce système planétaire, il se situait à 32 millions d'années-lumière, c'est bien ça ?
À une trentaine d'années-lumière.
Une trentaine d'années... Ah oui, d'accord, c'est pas la même chose. Une trentaine d'années-lumière, donc que c'était relativement proche. Est-ce qu'on peut envisager d'envoyer des sondes, par exemple ?
Alors c'est vrai que c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a vraiment des échelles de distance qui changent très rapidement quand on part du système solaire à l'extérieur du système solaire. Il y a beaucoup de vide, hein, finalement, dans l'univers. Donc dans le système solaire, on peut envoyer des sondes spatiales. Même quand on veut aller vers le système solaire externe, vers justement Uranus, Neptune, Pluton, il faut quelques dizaines d'années. Donc c'est relativement faisable. Le problème, c'est que ça, si on regarde en termes de distance-lumière, c'est-à-dire en temps qu'il faut la lumière pour parcourir la distance du Soleil jusqu'à ses planètes, c'est quelques heures au maximum. Alors que là, je vous ai dit qu'on est à 30 années-lumière. Donc on voit bien en fait qu'il y a un facteur d'échelle qui est très grand. Et en fait, avec les sondes, les technologies qu'on a actuellement, il faudrait des dizaines, des centaines de milliers d'années pour atteindre ce type de système planétaire. Donc ça semble assez difficile. Et même si on arrivait à atteindre la vitesse la plus élevée que la physique nous permet, la vitesse de la lumière, mais ce qui requiert une énergie énorme, il faudrait toujours 30 ans. Donc ça semble assez difficile dans l'immédiat d'envoyer une sonde, même si, alors ça, c'est quelque chose qui peut paraître un peu extravagant, mais en tout cas, il y a des recherches qui sont faites, des projets, pour essayer de créer des nanosondes qui seraient capables de rejoindre les étoiles les plus proches. Alors peut-être pas unique, parce que c'est 3 années-lumière, vaut mieux viser les étoiles un peu plus proches, 4 années-lumière, mais en quelques dizaines d'années. Mais pour l'instant, c'est quand même encore assez spéculatif.
Il y a combien de planètes sur lesquelles on a envoyé des sondes comme ça, justement ?
Alors pour l'instant, donc, il y a uniquement les planètes du système solaire, et toutes les planètes du système solaire, hein, donc les 8 planètes principales, donc incluant la Terre bien sûr, mais donc les 7 autres planètes que la Terre, ont été visitées par des sondes.
Soit que ce soit
des orbitaires ou des atterrisseurs. Alors les exoplanètes, non, parce que déjà la première qu'on connaît, c'était en 1995, donc finalement, même si on avait envoyé une sonde tout de suite, elle n'aurait pas encore eu le temps d'arriver. Et puis, comme je le disais, hein, c'est, pour l'instant, on n'a pas du tout la technologie pour envoyer une sonde vers une exoplanète. Donc tout ce qu'on a, c'est des mesures à distance.
Alors, vous nous avez expliqué, avant qu'on rentre en studio, comment on nommait ces planètes. On vous a demandé pourquoi elles s'appelaient AUMIC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu
Alors, c'est vrai qu'on a toujours pas mal de noms un peu, qui peuvent paraître un peu surprenants. Des fois, on parle même de numéros de téléphone, parce que là, c'est pas le pire, finalement. Donc, AUMIC, c'est dans la constellation du microscope, qui est une constellation de l'hémisphère sud. Hein, c'est souvent celle dans l'hémisphère sud qu'on a ces constellations avec des noms un peu modernes, tels que le microscope ou la machine pneumatique. Et donc, AU, c'est parce que c'est une étoile variable, et donc on nomme les étoiles comme ça, avec des lettres croissantes. On part dans l'alphabet. Une fois qu'on a fini toutes les lettres, on met avec 2 lettres, etc. Et donc, c'est une des manières de nommer les étoiles variables. Et le fait qu'elle ait été repérée et nommée comme étoile variable montre justement que c'est une étoile qui a de l'activité magnétique intense. Mais après, en fait, on a plein d'autres manières. Par exemple, moi, j'ai l'habitude d'utiliser un catalogue qui s'appelle GJ. Et donc, je l'appellerais plutôt GJ-803. Voilà, c'est un petit peu nos différentes nomenclatures des étoiles en astronomie.
Et il y a quelques années, vous aviez participé, je ne me souviens plus en quelle année, vous allez probablement nous le dire, à la découverte d'une planète qui s'appelait Proxima B du Centaure. Et à l'époque, on avait dit que cette planète serait potentiellement habitable. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors tout à fait, en 2016, on avait annoncé donc, avec un autre groupe la découverte de Proxima B. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que, comme je le disais, on ne voit pas les planètes. On a très peu d'informations. Ce qu'on est capable de mesurer, finalement, c'est la masse. Dans le cas de Proxima B, pas le rayon, parce qu'il n'y a pas de transit. Donc on voit, elle ne passe pas devant son étoile. On n'est pas dans l'alignement entre l'étoile et la planète. Donc on a juste la masse projetée. On sait qu'elle fait un peu plus que la masse de la Terre. On sait à quelle distance elle orbite de son étoile. Et à partir de ça, connaissant la luminosité de l'étoile, on peut en déduire quelle énergie elle reçoit de son étoile. Et donc, on peut évaluer que si son atmosphère a les bonnes propriétés, eh bien potentiellement, il pourrait y avoir de l'eau liquide à la surface. Mais si vous voulez, c'est assez hypothétique. C'est plutôt ce qu'on peut dire, si on veut être précis, c'est plus que la distance entre Proxima B et son étoile au vu de la luminosité de l'étoile, n'exclut pas le fait qu'elle soit habitable. C'est plus ça qui serait précis. Maintenant, si on veut savoir si la planète est habitable, eh bien, il faut être capable de détecter, de mesurer son atmosphère. Et ça, c'est ce qu'on espère pouvoir faire dans les prochaines années avec les nouveaux instruments tels que le nouveau télescope spatial James Webb de la NASA et de l'ESA, ou encore le télescope de 40 mètres de diamètre presque de l'Observatoire européen austral qui va être en service avant la fin de la décennie.
Et la fameuse Ahumik B dont on a parlé depuis le début, est-ce qu'elle fait partie des planètes qui seraient potentiellement habitables ou pas du tout?
Alors déjà, bon, c'est une planète de type Neptune, alors c'est pas forcément pratique parce qu'a priori quand on cherche une planète habitable, c'est plutôt une planète rocheuse comme la Terre. Et l'autre chose, c'est que cette planète, elle orbite extrêmement proche de son étoile. Et donc non, elle est, si on fait un petit calcul simple en supposant simplement même l'absence d'effet de serre, on voit que la température d'équilibre de cette planète est autour de 300 degrés Celsius. Donc elle reçoit un flux lumineux de son étoile beaucoup trop élevé, et quelle que soit l'atmosphère qu'elle est, on sait que la température sera élevée, donc elle n'est pas dans la zone habitable, en tout cas dans la zone tempérée de son étoile.
Merci beaucoup Julien Morin, je suis désolée, les 20 minutes passent très vite dans l'espace. Et on passe maintenant à la séquence salle des machines. Cette semaine, nous partons encore une fois sur le campus Triolet au MEA, la plateforme de microscopie électronique et analytique. Alors vous vous en doutez, on y trouve de nombreux microscopes. Mais aujourd'hui, nous ne vous en présenterons qu'un seul, le microscope électronique à transmission. Une machine permettant l'analyse d'échantillons solides, mais à l'échelle atomique, grâce à l'interaction des électrons avec la matière. Et c'est Erwan Oliviero qui nous fait la visite et qui nous donne les explications.
Oui, qu'est-ce que vous voyez?
Un iceberg droit devant!
J'ai quelque chose de très important à te dire.
Est-ce que je dois comprendre ce que je comprends? La machine fonctionne?
Elle marche!
Est-ce que ta machine fonctionne?
Non, prends un petit réglage, ça y est.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé?
Bonjour, je suis Erwan Oliviero, je suis le directeur de la plateforme de microscopie électronique de l'Université de Montpellier.
Aujourd'hui, on est venu voir des microscopes, vous allez nous en présenter un. C'est un microscope à transmission, c'est ça?
Alors, c'est un microscope électronique à transmission, en transmission exactement, puisque en fait on va passer à travers les échantillons. Donc on va utiliser les électrons pour sonder les échantillons et traverser les échantillons. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle un microscope en transmission par rapport au microscope à balayage où là on va balayer la surface de l'échantillon.
Peut-être qu'on va le décrire. Il fait
environ 3 mètres avec le canon à électrons qui est placé tout en haut. Donc par exemple ici, pour pouvoir le mettre dans ce bâtiment, il a fallu qu'on rabaisse le sol. Voilà, c'est quand même des machines assez volumineuses et pas faciles à manipuler. Donc, alors le principe, donc, c'est d'utiliser les électrons pour aller sonder la matière. Donc en microscopie optique, on va être limité en fait par la lumière, par la longueur d'onde de la lumière. Donc ça va nous limiter dans la résolution et dans les dimensions qu'on va pouvoir aller observer. Donc on va passer à la microscopie électronique pour utiliser les électrons qui ont une longueur d'onde qui est modulable. Donc en fonction de l'accélération qu'on va leur fournir, on va pouvoir moduler la longueur d'onde des électrons. Et donc on va pouvoir aller voir des choses beaucoup plus petites. Et c'est le principe donc de la microscopie électronique, une source d'électrons. Donc là tout en haut de la colonne, on va avoir un filament qui va émettre des électrons. Toute la colonne est placée sous vide, puisque les électrons puissent se déplacer, eh bien, il va falloir que ce soit sous vide. Donc on a des systèmes de pompage, hein, c'est le bruit qu'on entend ici dans la pièce. Et ensuite, les électrons, eh bien, on va les envoyer sur l'échantillon.
Les échantillons en question, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'on peut observer en particulier?
Alors, c'est extrêmement varié. On peut faire de la matière solide, donc tout ce qui est matériaux, tout ce qui va être nano-objets. On travaille beaucoup ici sur les nano-objets. Ça peut être aussi des films, des céramiques, des lames géologiques aussi. On peut regarder des roches que l'on va préparer pour pouvoir les observer. Et puis on peut aussi regarder ce qui est matière du vivant, c'est-à-dire des cellules. On peut regarder des virus sur ce type de microscope. Donc voilà, c'est très varié le type d'échantillon qu'on peut regarder sur ce microscope.
Concrètement, qu'est-ce qu'on regarde et où est-ce qu'on les met dans cette machine?
Alors, c'est pas si simple que ça. C'est pas comme un microscope optique où on va ramasser un échantillon et on va le mettre sous la binot et regarder immédiatement. Il y a une grosse étape de préparation. Les échantillons que l'on peut mettre à l'intérieur de ce microscope ne doivent pas dépasser 100 nanomètres d'épaisseur. Voilà la taille maximale de ce que l'on peut...
En fait, on est en train de regarder donc une petite boîte de pétri, et à l'intérieur de cette petite boîte, il y a une feuille avec une toute petite grille dedans de 2,8 mm.
Voilà, donc ça, c'est vraiment... On ne peut pas mettre quelque chose de plus gros que ça. Après, l'échantillon, il est dessus, en fait, on ne le voit pas.
D'accord, hein, sur la petite grille de 2,8...
Et cette grille, ensuite, on va la passer dans un...
Donc ça s'appelle
un porte-objet.
Un porte-objet. C'est une tige d'environ 30 cm de long.
Ça ressemble à une pompe à vélo.
C'est fait pour aller mettre l'échantillon au centre de la colonne. Donc voilà, l'échantillon, on va le placer ici, sur cette petite, ce petit trou là, ici. On va placer la grille dessus. Ce qui fait qu'au centre, eh bien, on va pouvoir passer les électrons, puisqu'il y a du vide. Dans la colonne. Donc on a un système de sas en fait, puisque la colonne est donc sous vide poussée. Donc pour insérer l'échantillon, il faut facile une demi-heure pour que le vide soit bon.
Là on voit quatre écrans, comment ça fonctionne cette partie-là?
En dessous l'échantillon, une fois que le faisceau d'électrons a traversé l'échantillon, on va avoir différents détecteurs. C'est ce que l'on peut voir autour de la colonne, hein, on a différents modules. Et ces différents détecteurs ils vont permettre d'obtenir différentes informations. Donc on a une caméra qui est placée sous l'échantillon et qui va nous donner l'image de l'échantillon. Et ensuite on a des détecteurs qui vont permettre de faire de l'analyse chimique par exemple. Ici, là, je suis en train de faire une expérience sur un matériau céramique. Les chercheurs qui travaillent sur ce matériau aimeraient savoir quelle est la composition. Et donc là, avec un détecteur de rayon X, eh bien, on peut obtenir les éléments qui sont présents dans le matériau. Alors c'est un phénomène complexe, c'est des phénomènes physiques d'interaction des électrons avec la matière qui vont émettre des rayons X et qui vont nous permettre d'identifier les éléments.
Là devant l'écran en fait on voit une sorte de masse de différents avec des carrés de différentes couleurs.
Voilà, ici vous avez de l'aluminium, on a du manganèse, on a du cobalt. Chaque couleur, chaque cartographie ici représente un élément. Et après, on peut faire des calculs de composition sur les échantillons. Et surtout, voir aussi où sont localisés tel et tel élément. Ça, c'est extrêmement intéressant pour les recherches.
Très joli en plus. Donc là, clairement, ce qu'on voit, c'est pas un morceau de céramique, c'est une particule.
C'est une nanoparticule de céramique, oui.
Sur un des autres écrans, on voit comme une espèce de sonar.
Cet écran-là, c'est vraiment le pilotage du microscope. Donc c'est là où on a toutes les fenêtres de réglage du microscope. Pour faire arriver les électrons sur l'échantillon, eh bien, il y a toute une série de lentilles électromagnétiques, donc il faut les contrôler, il faut les régler.
Donc là, dans cette colonne, il y a plusieurs lentilles ou il y en a une?
Là, il y a 6 lentilles sur ce microscope, voilà. Il y a un système de 6 lentilles, donc il y a un système condenseur pour condenser le faisceau, il y a des systèmes pour illuminer l'échantillon, et ensuite il va y avoir un système des lentilles pour projeter ce qui ressort de l'échantillon sur les caméras.
Alors le quatrième écran, j'imagine que c'est une image très agrandie de ce qu'on voyait sur les autres.
Alors c'est la même particule, c'est ce qu'on appelle des images en haute résolution. On va aller vraiment chercher la plus haute résolution possible.
On va pouvoir observer des échantillons agrandis combien de fois par rapport à l'échantillon de départ avec ce type de microscope?
Ça va être un peu impressionnant puisqu'on est habitué à des grandissements de 100, 200 sur les microscopes optiques. Ici, sur ce microscope-là en particulier, on peut grossir jusqu'à 25 millions de fois. Par exemple dans la matière, eh bien, ce qu'on arrive à voir, ce sont les plans atomiques. Et donc sur cette image, on voit des stries, là, on voit des lignes. Et bien ces lignes, ce sont les colonnes atomiques dans la nanoparticule qu'on observe en ce moment.
On n'a pas parlé des petites consoles.
Ouais, c'est vraiment le pilotage du microscope, tout le contrôle des lentilles, tout le contrôle des grandissements. On va jouer sur le focus aussi pour incliner l'échantillon, hein, puisque en fait pour regarder ces structures dans la matière, il va falloir aussi orienter l'échantillon dans la bonne direction. Donc c'est vraiment le pilotage du microscope.
On fait quel type de formation pour apprendre à piloter justement un microscope pareil?
Alors ça dépend, moi j'ai une formation de physicien. Le microscope électronique, ça a quand même été développé par des physiciens, donc il y a quand même énormément de principes physiques derrière. Après, dans chaque domaine, on peut se spécialiser en microscopie électronique, il y a des formations. Nous, on forme les gens ici aussi à utiliser les microscopes.
Et vous savez combien vous êtes à Montpellier, justement, à savoir piloter une machine pareille?
À Montpellier, c'est pas compliqué, on est 3 à savoir faire fonctionner ce type de microscope.
La lame mince qu'on glisse sous la binoculaire.
Voilà, ce que je disais, c'est pas juste ramasser quelque chose dehors et le mettre sous la bino. Alors généralement, on commence comme ça, hein, parce que c'est toujours intéressant de faire du multi-échelle, de partir de l'optique au balayage et ensuite aux transmissions pour avoir toute la structure de l'échantillon à ces différentes échelles. Ça permet de comprendre.
Parmi tout ce qui existe comme type de microscope, celui-ci, microscope à transmission, c'est ce qui donne le meilleur agrandissement de tous les dispositifs existants, ou il y a encore plus agrandissant?
Alors ce type de microscope, ce sont les microscopes qui ont les meilleures résolutions. Après, ce n'est pas le microscope qui a la meilleure résolution, hein. Il y a des, des microscopes maintenant qui sont à des résolutions de l'ordre du picomètre.
Mais aussi à transmission.
Aussi à transmission. Par contre, oui, on parle toujours de microscopes à transmission.
Tu crois que papa nous rendra notre taille?
Non. On n'est pas plus grand que des asticots.
La science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Mon appareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.